Alors ce matin, je vais vous parler de la grâce. Donc il faut comprendre un petit peu l'enchaînement des conférences. Donc tout d'abord, la première instruction, elle portait sur Dieu. En effet, l'homme est fait pour Dieu, donc c'est important de voir le but au départ, quel est le but de la vie. Et on a vu que donc l'homme est vraiment fait pour Dieu. Adam et Ève ont été enrichis de dons extraordinaires au départ. Donc l'homme n'a jamais existé dans un état de nature pure. Il était enrichi déjà du trésor de la grâce sanctifiante qui fait que il vivait près du bon Dieu. Et cela est manifesté dans le livre de la Genèse. En effet, il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu s'entretenait le soir, dans la bise du soir, avec Adam. Donc ce contact, cette familiarité entre Adam et le bon Dieu était l'indice de cette grâce sanctifiante qu'il élevait déjà au niveau surnaturel. Malheureusement, en raison du péché originel, eh bien, l'homme a perdu cette destination première. Il reste fait pour Dieu, mais il a perdu ce vêtement de la grâce sanctifiante. Donc il a été dépouillé de la grâce et en soi il était voué à la séparation de Dieu pour toujours. Puisque volontairement il s'était séparé de Dieu, il méritait d'être séparé de Dieu pour toujours. Mais le bon Dieu dans sa miséricorde a eu pitié de lui. Étant donné que l'homme par nature est plus fragile que l'ange, puisque l'ange est un pur esprit, tandis que l'homme a aussi donc une nature qui lui est commune avec l'animal, enfin, la partie inférieure de son être lui est commune avec l'animal. Donc l'homme étant plus fragile que l'ange, eh bien Dieu a voulu le racheter. Et donc c'est le mystère de l'incarnation, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui a payé à notre place la dette due à nos péchés. Donc notre Seigneur nous a mérité la possibilité de conquérir de nouveau le ciel. Mais comme le dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te rachètera pas sans toi. Donc notre Seigneur nous a mérité le ciel, mais maintenant pour conquérir le ciel, il y a des conditions à remplir. En effet, notre Seigneur lui-même nous le dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc notre Seigneur met comme condition pour aller au ciel la foi, celui qui croira. Et cette foi doit conduire ensuite au sacrement et sera baptisé. Et puis ensuite après, nous savons qu'à celui qui a reçu le baptême doit être ensuite fidèle aux grâces du baptême. Donc il doit s'efforcer de vivre en état de grâce. Alors pour nous encourager à bien vivre de cette vie chrétienne, puisque nous avons eu la grâce du baptême, eh bien essayons de porter un regard sur l'homme nouveau que nous avons revêtu le jour de notre baptême. Et ça, il est important régulièrement de nous en souvenir. Lorsque nous nous mettons en présence de Dieu, vous voyez, c'est très important de porter ce regard de foi sur ce que nous sommes en réalité. Donc ce que nous sommes à la fois donc bien faibles en raison des séquelles du péché originel, nous sommes des créatures pécheresses, c'est un des aspects. Mais en même temps aussi, nous sommes des créatures rachetées par notre Seigneur Jésus-Christ et revêtues de la grâce sanctifiante. Et par là, nous sommes enfants de Dieu. Enfants peut-être parfois indociles, enfants faibles, enfants qui tombent, mais enfants. Et donc c'est capital pour nous de porter ce regard de foi sur l'homme nouveau, voyez. Parce que si j'espère que le bon Dieu va m'écouter, voyez, ce n'est pas bien sûr en tant que je suis pécheur, mais c'est en tant que je suis enfant. Et donc c'est très important de prendre conscience du trésor dont j'ai été enrichi depuis le jour de mon baptême. Et ici la difficulté que nous avons, c'est que pour constater nos faiblesses, je dirais, un regard psychologique suffit. Il suffit de revenir sur soi et réaliser que on n'a pas toujours été fidèle à la grâce. Mais pour porter un regard juste sur l'homme nouveau, un regard psychologique est insuffisant. Parce que la grâce, elle n'est pas d'ordre psychologique, elle est d'ordre spirituel, elle est d'un autre ordre. Vous voyez. Donc il faut porter un regard de foi sur cette réalité donc de l'homme nouveau que nous avons revêtu au baptême. Et donc c'est très important de renouveler ce regard, puisque ce regard est beaucoup moins spontané, je dirais, que le regard que nous pouvons porter sur nos faiblesses. Lorsque notre Seigneur a rencontré la Samaritaine, il lui a dit ceci: « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, Saint Jean chapitre 4 verset 10, eh bien certainement que notre Seigneur, ce qu'il a dit à la Samaritaine, il peut nous le dire à chacun d'entre nous, si tu savais le don de Dieu. » Alors nous savons un petit peu ce don de Dieu, mais il est très important au cours d'une retraite de méditer un petit peu plus, d'approfondir ce don de Dieu. Et donc, en disant à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, notre Seigneur voulait par là essayer d'éveiller en elle à la fois sa curiosité et l'aider à contempler les mystères du royaume de la grâce. Quel est ce don de Dieu dont parle notre Seigneur à la Samaritaine? Eh bien, ce don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu savais le don de Dieu. Le don de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui se donne à nous. Voyez. Et pour manifester, pour arriver à saisir ce qui s'est passé en nous au baptême, eh bien, il faut regarder les éléments sensibles dont l'Église se sert dans sa liturgie pour évoquer un petit peu cette transformation profonde. Le jour du baptême, au moment où le prêtre verse l'eau sur le front de l'enfant, une fois qu'il a versé l'eau sur le front de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du saint crème qu'il applique sur la tête de l'enfant et on dit en ce moment-là, reçoit le crème du salut. Et donc ce saint crème, en fait, évoque cette participation à la royauté de notre Seigneur. Notre Seigneur est roi, servir Dieu, c'est régner. Et par le baptême, eh bien, nous sommes déjà rendus participants du royaume du ciel. Voyez. Tout baptisé en lui-même possède en lui ce qui fera son bonheur au ciel. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que toute âme baptisée possède en elle-même ce qui fera son bonheur au ciel. Donc, dès lors qu'une âme est baptisée, eh bien, elle reçoit la grâce, c'est ce dont nous allons parler, et avec cette grâce, elle reçoit la Sainte Trinité. Et le ciel, c'est quoi? C'est la contemplation de la Sainte Trinité. Seulement, ce trésor que nous possédons, nous ne le voyons pas. C'est un trésor qui est invisible. Comme notre âme, nous ne la voyons pas, mais nous pouvons percevoir notre âme par des effets. Le fait que je bouge, le fait que je parle, montre bien que j'ai une âme. Sinon, je ne pourrais pas parler. Et donc, il y a aussi des effets de la grâce, dont on pourra parler, qui montrent bien que la grâce est présente en nous. Mais cette grâce, en elle-même, elle est invisible. On ne peut pas la voir. Alors, l'Église donc nous montre un des effets du baptême par ce saint crème qui nous montre, qui était normalement réservé au roi, et qui nous montre que nous participons déjà, nous sommes déjà héritiers en puissance du royaume du ciel. L'héritage, nous pourrons en profiter, eh bien, qu'au moment de la mort. Parce que normalement, on profite de l'héritage après la mort donc de ses parents. Et donc, nous-mêmes, nous pourrons profiter de l'héritage après notre mort. Mais cet héritage est déjà présent en nous. C'est ce que symbolise ce saint crème. Et une fois que le prêtre a mis le saint crème sur la tête de l'enfant, ensuite, il lui remet un vêtement blanc. C'est souvent un petit bonnet blanc. Alors, les prêtres ne savent pas trop toujours comment le mettre, parce qu'on n'est pas tellement habitué à ce genre de choses. Mais le vêtement blanc symbolise, vous voyez, la pureté baptismale et symbolise cette grâce sanctifiante dont nous sommes revêtus par le baptême. Le prêtre dit: recevez ce vêtement blanc, gardez-le sans tache jusqu'au tribunal de Dieu, de manière à avoir part à la vie éternelle. Donc le vêtement blanc symbolise cette grâce sanctifiante par laquelle nous revêtons notre Seigneur Jésus-Christ. Et rappelez-vous l'épisode du festin. Notre Seigneur compare dans ses paraboles le ciel à un festin. Et pour bénéficier de ce festin, eh bien, il faut être revêtu du vêtement nuptial. Et malheureusement, donc dans l'histoire de la parabole, il est fait mention d'un homme qui, lui, n'a pas la robe nuptiale. Et donc, en ce moment-là, le maître qui passe, eh bien, demande qu'on rejette cet homme parce qu'il n'a pas le vêtement en question. Donc, le vêtement en question, c'est justement la grâce. Donc, la grâce sanctifiante, c'est ce vêtement qui nous permet d'être agréable à Dieu et qui nous rend dignes du royaume du ciel. Et ensuite, le deuxième signe sensible, en plus du vêtement qui nous est proposé par l'Église pour nous faire prendre conscience du trésor du baptême, eh bien, c'est le cierge allumé. Le cierge allumé qui est remis dans notre main, ou qui est remis dans la main du parrain et de la marraine, parce qu'en général, on est trop petit pour le porter, sauf quand l'enfant a 1 ou 2 ans. Et alors, en général, c'est d'ailleurs un moment un peu difficile. C'est un âge difficile. Quand on baptise les enfants qui ont 1 ou 2 ans, bon, déjà, il faut baptiser les enfants le plus tôt possible, ça, vous le savez bien. Hein. Mais il m'est arrivé une anecdote un jour où c'était un enfant qui avait à peu près 2 ans. Alors, on dit que 2 ans, c'est l'âge du non. L'enfant, il apprend à dire non. Bon. Et puis là, l'enfant était assez bougeon, quoi. Il bougeait beaucoup. Et alors, je me dis, bon, je vais lui remettre le cierge, comme ça, j'espère qu'il sera sage. Alors, je dis, reçois ce cierge allumé. Pff, il souffle sur la bougie. Ben non, hein. Dommage. Alors, tout le monde s'est mis à rire, mais c'était moi, non. Je ne riais pas à ce moment-là. Bon. Enfin bon, après, ça sert de... C'est comme ça qu'on acquiert l'expérience. Mais donc, le prêtre dit, recevez ce cierge allumé, gardez intacte la grâce de votre baptême. Observez les commandements de Dieu, afin que lorsque le Seigneur viendra pour les noces, vous puissiez aller à sa rencontre avec tous les saints dans la cour céleste, de manière à avoir part à la vie éternelle. Donc le cierge allumé, vous voyez, est un symbole de la grâce sanctifiante, de la charité. La lumière, la flamme, est un symbole de la grâce sanctifiante et de la charité. Souvent, d'ailleurs, dans la Sainte Écriture, grâce et charité sont presque synonymes, vous voyez. Donc la grâce, ça reste pour nous quelque chose de mystérieux, la charité, c'est peut-être quelque chose de plus clair, même si aujourd'hui, en français encore aussi, c'est un terme ambigu, parce que le terme charité, on le met un peu à toutes les sauces, et il faut savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais avec la grâce sanctifiante, il y a la charité. C'est pour ça que notre saint Paul dit « Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Ça veut dire que si on n'est pas en état de grâce, eh bien tous les actes les plus héroïques sont nuls pour le ciel. Donc on a besoin de la grâce et on a donc besoin de la charité pour pouvoir être agréable à Dieu. Mais donc grâce et charité vont ensemble. Parce que quand j'ai la grâce sanctifiante, j'ai nécessairement en moi la foi, l'espérance et la charité. Et alors c'est l'image ici qui est donnée par notre Seigneur lui-même, donc dans l'Évangile, dans une autre parabole, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages ont leur cierge allumé, leur chandelier allumé. Et donc, ayant leur chandelier allumé, eh bien, elles vont pouvoir bénéficier de la compagnie de Dieu. Et tandis que les vierges folles qui n'ont pas, elles, suffisamment d'huile dans leur lampe, qui vont chercher l'huile, elles reviennent, la porte est fermée. Donc c'est l'image des âmes qui ne sont pas en état de grâce et donc qui ne pourront pas bénéficier du bonheur du ciel. Donc l'Église, dans sa liturgie, va nous donner donc 2 symboles de cette grâce sanctifiante qui nous rend agréable à Dieu. Le symbole du vêtement blanc, symbole donc de la grâce, et l'exemple du cierge allumé, donc qui est encore une autre image de cette grâce sanctifiante. Alors maintenant, je vais développer un petit peu plus ce qu'est cette grâce sanctifiante en partant de références scripturaires. Donc on va s'appuyer sur l'Évangile, voir ce que le bon Dieu nous a dit au sujet de cette grâce. Notre Seigneur s'adresse à Nicodème qui vient l'interroger. Nicodème qui était un notable parmi les Juifs et qui, par timidité et pour ne pas se faire trop mal voir des membres de la synagogue, n'osait pas parler à notre Seigneur au grand jour, mais le soir, eh bien, il allait lui parler pour lui poser quelques questions. Et donc, Nicodème vient voir ainsi notre Seigneur, et notre Seigneur lui dit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. » Donc le « Amen, amen, je te le dis », vous voyez, c'est une parole qui indique l'autorité de notre Seigneur. Quand notre Seigneur commence par dire « Amen, amen, je te le dis », ça veut dire par là, c'est moi qui parle, hein, donc fais-moi confiance. Donc quand notre Seigneur exprime une vérité qui nous dépasse, il appuie cette vérité en montrant que c'est lui qui parle et que nous devons le croire. Vous voyez. Donc il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'accepter ce message. Notre Seigneur dit donc « Amen, amen, je te le dis », personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. Donc notre Seigneur montre bien l'existence de deux naissances distinctes. La première naissance, c'est la naissance à la vie naturelle. La deuxième naissance, c'est la naissance à la vie surnaturelle. Alors Nicodème, peut-être qu'il fait aussi un petit peu exprès, parce qu'il sait très bien que la question qu'il pose est une question qui paraît, bon, en tout cas pour nous, stupide. Mais c'est parce qu'il veut que notre Seigneur explique un petit peu plus ce qu'il veut dire. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il en rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Alors, il sait très bien que le Seigneur va lui dire, bah oui, bien sûr, maintenant c'est évident que non. Alors qu'est-ce que notre Seigneur va dire en ce moment-là pour essayer de lui expliquer? Est-ce qu'il va l'expliquer? Mais non, mais en fait, là je te parle du baptême, donc c'est de l'eau qu'on va faire couler sur le front, et donc il y a la grâce sanctifiante qui va venir dans l'âme de l'enfant. Non. Notre Seigneur, vous voyez, quand il parle justement en Dieu, donc il n'est pas toujours au même niveau que nous, parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de nous. Et donc, ce qu'il veut surtout, lorsqu'il exprime une vérité qui est très haute, c'est que nous adhérions à cette vérité, que nous soumettions notre intelligence à cette vérité. L'homme cherche à comprendre, mais il faut savoir, eh bien, se plier notre intelligence lorsque Dieu nous parle. Vous voyez. Et c'est ça qui est important pour nous. Après, si on plie, si on soumet donc notre intelligence à celle de notre Seigneur, la lumière viendra. Mais il faut d'abord faire cet acte d'humilité, de se soumettre à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, je dois adhérer aux vérités qu'il me transmet. Dieu sait bien mieux que moi ce qui se passe de l'autre côté. Il sait bien mieux que moi ce qui se passe même ici-bas, donc en moi. Puisqu'il me dit qu'il existe une double naissance, je dois le croire. Donc notre Seigneur va renchérir en faisant de nouveau un acte d'autorité. Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc notre Seigneur précise ici quand même sa pensée. Il montre qu'il existe donc une deuxième naissance, et cette naissance va être une naissance qui va se faire dans l'eau et dans l'esprit. Donc naissance du baptême d'eau, vous voyez, et en même temps dans l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint va venir dans l'âme de l'enfant au moment du baptême. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, l'esprit c'est l'Esprit Saint, donc à moins de naître de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce qui va nous ouvrir les portes du ciel, eh bien, c'est cette nouvelle naissance. Et donc, c'est pour cela que c'est très important de revenir régulièrement à au baptême pour prendre conscience du trésor qui est présent en nous. Voyez. Ce trésor est présent en nous depuis notre baptême, sans aucun mérite de notre part. On n'a pas mérité le baptême. Même si on a reçu le baptême comme adulte, qu'on a demandé le baptême, on n'a pas mérité le baptême. Le baptême est un don gratuit de Dieu. Et donc, il faut savoir admirer, en fait, tout ce que nous devons au bon Dieu. La vie naturelle, nous la devons au bon Dieu, et la vie surnaturelle, nous la devons au bon Dieu. Ensuite, notre Seigneur, à la Samaritaine aussi, donne des précisions sur cette vie nouvelle. Donc, tout d'abord, le dialogue donc, de notre Seigneur avec Nicodème, c'était donc Saint Jean, chapitre 3, versets 3 à 6. Avec la Samaritaine, c'est le chapitre suivant, chapitre 4, versets 10 et suivant. Notre Seigneur dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Saint Jean, chapitre 4, verset 10. « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » Saint Jean, chapitre 4, verset 13 et 14. Donc, quelle est l'eau dont parle notre Seigneur ici? Donc, les commentateurs nous disent que cette eau, en fait, n'est autre que le symbole du Saint-Esprit. Voyez. Le Saint-Esprit est appelé par notre Seigneur de l'eau vive. Donc le Saint-Esprit est cette eau vive qui vient purifier notre âme et la sanctifier. Et en même temps, étancher notre soif. Voyez. L'eau naturelle nous sert pour nous laver. Elle nous sert aussi pour étancher notre soif. Donc ce que l'eau naturelle produit sur notre corps, l'eau de la grâce et l'eau du Saint-Esprit le produit sur notre âme. Voilà pourquoi notre Seigneur prend cette image de l'eau vive. Ensuite, essayons d'avoir, de voir maintenant encore des précisions sur la nature de cette grâce sanctifiante à partir de ce que les apôtres nous ont dit. Donc, les apôtres ont reçu de notre Seigneur un enseignement et ils ont transmis cet enseignement dans la Sainte Écriture et aussi en partie par voie orale. Mais la Sainte Écriture va nous donner encore là, dans les actes des apôtres et dans les épîtres des apôtres, des précisions sur la nature de cette grâce sanctifiante. Saint Jacques, donc, écrit dans son épître, « Le Père des Lumières, de sa propre volonté, nous a enfantés par une parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. » Le Père des Lumières, c'est Dieu le Père. De sa propre volonté, la volonté en Dieu désigne encore le Saint-Esprit, nous a enfantés par une parole de vérité. La parole de vérité, c'est le Verbe, donc le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc on voit les trois personnes divines qui sont en action. Donc le Père des Lumières, de par sa propre volonté, par une parole de vérité, donc les trois personnes divines, donc nous ont enfantés, donc nous avons été enfantés, donc nous avons un nouvel enfantement, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Donc ici, donc Saint Jacques a bien compris le message de notre Seigneur. Il montre bien l'existence d'une nouvelle nature, un nouvel enfantement. Et cet enfantement a eu lieu au baptême. Saint Pierre, maintenant. Saint Pierre dit, vous avez été sanctifiés. Vos âmes ont été sanctifiées. Vous avez été réengendrés, dit Saint Pierre, d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par une parole divine, vivante et permanente. Donc nous avons été réengendrés, dit-il, d'une semence incorruptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semence, c'est donc la graine, si vous voulez, donc c'est l'élément de base qui est présent en nous, donc c'est finalement cette grâce. Cette grâce qui est non pas corruptible, mais incorruptible. Ça veut dire qu'elle est en soi immortelle, vous voyez. Nos premiers parents ont été élevés à l'état de grâce. Donc, ils étaient élevés à l'ordre surnaturel. Ça veut dire qu'ils avaient cette grâce qui, en elle-même, était immortelle. Ils ont été créés immortels. Ils avaient le don d'immortalité. Ça veut donc dire que Adam et Ève, dans le plan de Dieu, ne devaient pas mourir. Voyez. Mais malheureusement, parce qu'ils ont été infidèles à la grâce, ils sont morts. Mais ils avaient la grâce sanctifiante qui, par elle-même, est immortelle. Voyez. Et en raison de cette grâce sanctifiante, eh bien, nos premiers parents, eux, avaient un privilège particulier, c'est que cette grâce qu'ils avaient donc dans leur âme, la grâce est subjectée dans l'âme, elle avait un effet jusque dans le corps, si bien que le corps lui-même devait être immortel. Donc la grâce produisait un effet jusque sur le corps. Mais aujourd'hui, en raison du péché de nos premiers parents, eh bien, cette grâce maintenant ne produit plus ce même effet sur le corps. C'est pour ça que nous devrons mourir d'une mort naturelle. Mais la grâce en elle-même, elle est immortelle, vous voyez. C'est pour ça que notre Seigneur dit, voyez, par exemple, celui qui mange ma chair, donc il suppose bien sûr que c'est une personne qui a été baptisée, donc qui est déjà en état de grâce, a la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle. Dès lors que j'ai la grâce sanctifiante, la vie éternelle est déjà commencée pour moi. Voyez. Donc nous avons déjà en nous le germe de ce qui fera notre bonheur au ciel pour l'éternité. Donc la vie éternelle est déjà commencée. Alors malheureusement, eh bien, nous pouvons perdre cette vie, hélas, par le péché mortel. Mais en elle-même, eh bien, cette grâce reste incorruptible. Elle est incorruptible par nature. L'homme peut malheureusement donc alors qu'elle est incorruptible par nature, donc l'homme peut dire non à Dieu et par là perdre cette vie. Mais la vie en elle-même, elle est incorruptible. Voilà ce que dit saint Pierre dans sa première épître, chapitre 1er, versets 22 et 23. Maintenant Saint Jean, donc j'ai pris volontairement Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, puisque ce sont les trois apôtres qui ont vécu le plus près de notre Seigneur, qui ont eu la grâce de le voir au Mont Tabor, qui ont aussi été présents au Jardin des Oliviers. Donc Saint Jean donne encore des précisions en disant « Quiconque est engendré de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 9. Donc cette semence, c'est de nouveau la grâce sanctifiante, elle demeure en lui. Donc ça montre bien là encore cette qualité permanente. La grâce est une qualité qui demeure en nous en permanence. Et à nouveau Saint-Pierre, pour terminer sur cette présentation de la grâce, Nous avons été rendus participants de la nature divine, dit saint Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 4. Nous avons été rendus participants de la nature divine. Donc la grâce sanctifiante donc est une qualité qui modifie notre âme. Notre âme reste une âme humaine, mais cette âme humaine, elle est transformée, elle est embellie. Et elle est embellie de telle manière qu'elle puisse accueillir en elle le Saint-Esprit. Et comme les trois personnes divines en dehors de Dieu agissent toujours ensemble, eh bien, en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu aussi en même temps le Père et le Fils. Parce que dans les œuvres qui sont extérieures à Dieu, les trois personnes agissent toujours de concert. Donc dans la mesure où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu avec le Saint-Esprit le Père et le Fils. Donc toute âme qui est en état de grâce, eh bien, elle a avec cette grâce sanctifiante la Sainte Trinité présente en elle. C'est pour cela, par exemple, que saint Paul peut dire aux Romains que nous avons reçu la charité par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, en recevant le Saint-Esprit, nous avons reçu en même temps la charité. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il fait allusion au don de l'Esprit-Saint. Mais en recevant le Saint-Esprit, j'ai reçu aussi en même temps le Père et le Fils. Enfin, ici, j'ajouterais que non seulement nous avons donc été engendrés par Dieu le jour de notre baptême, mais on peut dire que spirituellement, nous sommes constamment engendrés par Dieu à chaque instant. Voyez. Donc l'engendrement surnaturel n'a pas lieu une fois pour toutes, mais c'est Dieu est en vie, cette vie de Dieu continue à s'écouler dans notre âme en permanence. Et cette adoption, engendrement va faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Donc dans la mesure où nous avons reçu cette vie surnaturelle, nous devenons enfants adoptifs de Dieu. Maintenant, il y a une grande différence entre l'adoption dans le sens de la grâce et l'adoption juridique qui existe ici-bas lorsque des parents adoptent un enfant. Lorsque des parents adoptent un enfant, au départ, l'enfant n'a rien de ses parents adoptifs. Donc les parents adoptifs vont essayer d'aimer cet enfant comme leur propre enfant. Vous voyez, ils vont essayer de leur donner tout leur amour, tout leur bien, pour que cet enfant soit vraiment puisse grandir, puisse s'épanouir, donc le mieux possible, puisse devenir un homme. Bon. Donc il y a des liens très forts qui vont être créés entre ces parents adoptifs et cet enfant. Mais il n'en reste pas moins que malgré tout, cet enfant adoptif, au départ, il y a tout un capital génital qui ne dépend pas du tout de ses parents adoptifs. Donc au départ, il n'a rien de ses parents adoptifs. Il y a simplement un choix. Les parents adoptifs décident d'adopter cet enfant. Donc il y a un contrat qui est établi. Et donc les parents vont essayer d'aimer cet enfant de leur mieux. L'enfant ensuite, après, devra essayer de son côté aussi de porter l'amour le plus grand vis-à-vis de tout ce qu'il doit à ses parents adoptifs. Mais il n'empêche que au départ, il n'y a rien qui ne vienne des parents chez l'enfant, au départ. Tandis que pour nous, c'est totalement différent. Dans la mesure où nous sommes enfants adoptifs de Dieu, il y a une transformation profonde opérée en notre âme qui fait que nous sommes vraiment rendus, comme dit saint Pierre, comme on l'a vu, participants de la nature divine. Donc Dieu nous aime en voyant à travers nous une image de son propre Fils. Voyez. Ontologiquement, c'est-à-dire dans notre être. Il y a une transformation dans notre être qui fait que Dieu voit à travers nous l'image de son Fils. Voyez. Et c'est pour ça qu'il nous aime. Il nous aime parce que nous sommes une image vivante de son Fils. Et donc c'est très important pour nous, bien sûr, de porter ce regard de foi, parce que c'est pas sensible, hein, on ne le voit pas, sur cette transformation opérée dans notre âme. Donc si le bon Dieu m'aime, c'est parce qu'il voit en moi l'un de ses fils. Je suis un de ses enfants adoptifs. Et cette adoption n'est pas uniquement un contrat par lequel Dieu déciderait de m'aimer alors qu'il n'y aurait rien en moi de lui. Non, c'est bien plus que cela. il y a en moi quelque chose de lui. Il y a en moi quelque chose de lui qui est très profond et qui me rend semblable à son fils. Donc ce que lui est par nature, moi je suis par l'adoption. C'est-à-dire que c'est par un choix de Dieu que cette transformation s'est opérée en moi. Mais c'est une transformation profonde de mon âme. Alors après, à moi de développer cette nouvelle nature, donc dans la mesure où j'ai une nouvelle vie, à moi de faire grandir cette nouvelle vie pour que je sois toujours plus semblable donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dès ma naissance, c'est une naissance à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est une vie qui me rend semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, pour mieux saisir encore la profondeur justement de cette grâce, un petit développement théologique sur les différents modes de présence de Dieu. Parce que quand on est quand on fait du catéchisme, donc on apprend au catéchisme que Dieu est partout. Vous voyez, Dieu est partout, il est au ciel, il est sur la terre, il est en tout lieu. Donc, si Dieu est en tout lieu, là vous me parlez maintenant du Dieu qui est présent dans l'âme par la grâce, est-ce que c'est le même type de présence? Non, c'est pas le même type de présence. Donc c'est important de bien distinguer les différents modes de présence de Dieu. Entre parenthèses, d'ailleurs, quand je faisais du catéchisme aussi, donc j'avais posé aux enfants la question « Où est Dieu ?» Et donc une enfant a répondu, donc le catéchisme se faisait dans une chapelle, hein. Donc, où est Dieu? Alors, réponse des enfants, Dieu, il est au ciel. Je dis, oui, très bien. Dieu, il est dans mon cœur. Je dis, oui, j'espère. Et puis alors, une fille en ce moment-là qui dit après, où est Dieu? Alors, timidement, elle lève le doigt et puis elle dit, dans la lampe. Bon, la maman avait dû expliquer, avait dû lui dire, tu vois la lampe qui est là, ça veut dire que Dieu est là. Donc, on me dit, bon, elle avait compris que Dieu était dans la lampe. Je dis non, il y a une erreur, non, c'est la lampe est le signe de la présence de Dieu, mais il ne faut pas confondre le signifiant et le signifié. Dieu il est dans le tabernacle, mais pas dans la lampe. Enfin, il est aussi dans la lampe, mais, parce qu'il est présent partout. Mais... Donc Dieu est présent partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, il est dit ceci. En lui nous vivons, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes. Donc Dieu est partout dans le sens où c'est Dieu qui est à l'origine de tout être. Voyez. Un être n'a pas pu venir à l'existence sans Dieu. Voyez. C'est absurde de penser une chose pareille. Tout être n'a pu venir à l'existence que par Dieu. Parce qu'au départ, le rien ne peut pas produire quelque chose. Donc tout ce qui existe ne peut exister que par l'être même qui possède l'existence en lui-même. Or, moi, je n'existe pas par moi-même. Vous voyez, mon existence est une existence reçue, une existence qui est donc dépendante. Donc tout ce qui existe ne peut exister que par quelqu'un qui possède l'existence en lui-même, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. N'ayant pas l'existence par moi-même, je ne peux pas communiquer eh bien, l'existence moi-même. Alors bien sûr que les parents peuvent communiquer le corps à leurs enfants, mais l'âme même de l'enfant vient de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de toute âme. L'âme est spirituelle. Et sinon, on pourrait dire, alors, d'où elle vient l'âme? C'est l'âme du papa qui passe à l'enfant, c'est l'âme de la maman. L'âme, elle est simple, elle n'est pas divisée. Donc, l'âme, étant le principe de vie, ne peut venir que de Dieu. Donc, tout être en soi ne peut venir que de Dieu. En lui, nous vivons, en lui, nous nous mouvons, en lui, nous sommes. Et donc, non seulement tout être vient de Dieu, mais donc, Dieu, ensuite, maintient les êtres dans l'existence. Si Dieu cessait de maintenir un être dans l'existence, eh bien cet être, immédiatement, il tomberait dans le néant. Donc ça veut dire que tout être doit son origine à Dieu, et aujourd'hui, maintenant, présentement, il n'existe que par Dieu. Et déjà dans ce niveau, on peut dire qu'il existe différents degrés de présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est davantage présent dans les êtres qui sont plus élevés dans l'échelle de la création. Plus un être reçoit de Dieu, plus Dieu est présent en lui. Saint Thomas d'Aquin résume cette vérité en disant que Dieu est plus uni aux êtres auquel il opère de plus grandes choses. Donc plus un être est grand, plus le bon Dieu lui communique davantage. Voyez. Par exemple, Dieu est davantage présent, bien sûr, dans un ange, du point de vue naturel, que dans un caillou, c'est évident. Donc Dieu est plus présent dans les êtres auxquels il opère de plus grandes choses. Donc ça, c'est déjà le mode de présence de Dieu en toute créature. Alors maintenant, il existe un autre mode de présence de Dieu, c'est celui dont nous parlons ce matin, c'est la présence de Dieu dans l'âme des justes. Donc Dieu est présent dans l'âme des justes, donc des âmes dans ceux qui sont en état de grâce, non pas simplement pour les maintenir dans l'être, mais comme protecteur et ami. Donc il est présent comme protecteur et il est présent comme ami. C'est intéressant de voir que lorsque saint Thomas d'Aquin parle de la grâce sanctifiante, et même quand il parle de la charité, il dit que la charité, parce que je vous ai dit qu'il y a un petit peu comme une identification d'une certaine manière sur certains rapports, entre grâce et charité, parce que les deux vont toujours ensemble. Celui qui perd la charité perd la grâce. Et celui qui a la grâce, il a nécessairement la charité. La vertu surnaturelle de charité. Lorsque saint Thomas d'Aquin définit ce qu'est la charité, il dit que la charité, avant de dire que c'est une vertu, parce que pour nous on dit bah, qu'est-ce que c'est que la charité, on va dire bah, c'est une vertu surnaturelle, ce qui est très bien, ou c'est une vertu théologale, c'est tout à fait juste. Mais avant de définir la charité comme vertu, saint Thomas d'Aquin définit la charité comme une amitié. Ouais. La charité, dit saint Thomas d'Aquin, est une amitié. Et il tient cela de saint Ambroise. Saint Ambroise, père de l'Église, définit la charité comme une amitié. Et donc saint Thomas d'Aquin ensuite va montrer que toutes les caractéristiques de l'amitié définies par Aristote sont tout à fait justes donc entre une âme en état de grâce et Dieu. Oui. Dieu est notre ami. Nous sommes amis de Dieu. Dieu voit à travers toute âme en état de grâce un de ses amis. Et dans une amitié, il y a une certaine égalité. Par exemple, bon, après on peut parler de mes amis les bêtes, si vous voulez, mais en soi, il n'y a pas d'amitié entre un homme et un chien, c'est pas, ou un homme et un chat. C'est pas une amitié. L'amitié, normalement, suppose une certaine égalité et suppose aussi une réciprocité. Si vous aimez quelqu'un, mais que cette personne ne vous aime pas, on ne peut pas parler d'amitié. Pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait une réciprocité. Quand il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amitié. Donc dans une amitié, il y a une certaine égalité et il y a une réciprocité. Donc, s'il est vrai que la charité est une amitié, que donc toute âme en état de grâce est amie de Dieu, ça veut donc dire que par la grâce, je vais être élevé au niveau du divin, oui, nécessairement. Parce que en soi, il y a un monde et même un abîme entre nous et Dieu. Donc, si réellement nous sommes amis de Dieu, pour que nous soyons amis de Dieu, il faut que Dieu nous élève jusqu'à lui. Sinon, il n'y aurait pas d'amitié possible entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'amitié possible entre un homme et un animal parce qu'on n'est pas de même nature. Eh bien, en soi, il n'y aurait pas d'amitié possible entre l'homme et Dieu puisque l'homme a une nature humaine et Dieu une nature divine. Donc, pour que nous ayons qu'il y ait une amitié, il y a une réelle amitié entre l'homme en état de grâce et Dieu, il faut que Dieu nous élève jusqu'au niveau du divin. Oui. Et c'est ce qu'il fait par la grâce. Donc, c'est pour cela que le bon Dieu, pour qu'il y ait cette amitié soit rendue possible, il nous élève jusqu'à son niveau. Et c'est pour ça que la Sainte Trinité elle-même vient habiter dans notre âme, pour que nous soyons capables d'aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Voyez. Par la grâce sanctifiante, je suis capable de connaître Dieu comme il se connaît et de l'aimer comme il s'aime. Alors cette connaissance, par contre, que j'ai de Dieu aujourd'hui par la grâce, on vous en parlera peut-être après quand on parlera des vertus théologales, donc je ne veux pas trop devancer mon confrère qui vous parlera des vertus théologales, mais quand par la foi, eh bien, aujourd'hui, je peux connaître Dieu comme il se connaît. Seulement, la connaissance que je vais avoir va être aujourd'hui une connaissance plutôt intellectuelle, si vous voulez, cérébrale, par la foi. La foi est un clair-obscur, parce que Dieu, je ne le vois pas. Mais malgré tout, quand je dis, par exemple, qu'il y a trois personnes en Dieu, eh bien, j'évoque une vérité. Je connais Dieu comme il se connaît. Parce que, de fait, il y a trois personnes en Dieu. Par contre, aujourd'hui, pour comprendre que ces trois personnes ne forment qu'un seul Dieu, alors ça, je suis pas capable de le comprendre. Je suis capable de le formuler, mais je suis pas capable de le comprendre. Parce que pour moi, ça me dépasse. Ça me dépasse que s'il y a trois personnes pour former un seul Dieu, que ces trois personnes ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu. Donc c'est ça, c'est le nœud du mystère, si vous voulez. Il en est de même des autres mystères. Dans tout mystère, il y a un nœud qui est, pour nous, insaisissable. Sinon, ce ne serait plus un mystère. Un mystère qu'on serait capable de comprendre, ce ne serait plus un mystère. Mais malgré tout, je dis que par la foi, je connais Dieu comme il se connaît, parce que j'ai reçu de Dieu un enseignement. Dieu qui, de l'autre côté, m'a dit ce qui se passe. Moi, j'ai reçu son enseignement, donc je sais ce qui se passe. Un aveugle, si vous voulez, peut très bien ne pas voir ce qu'est le monde, mais si on lui décrit le monde, eh bien, il a une connaissance du monde tel qu'il est, même s'il ne le voit pas. Il est aveugle, donc il ne le voit pas, mais puisqu'on lui a expliqué ce qu'est le monde, il a entendu, il a donc enregistré. Et donc, il est capable lui-même de décrire le monde, même si lui ne le voit pas, vous voyez. Eh bien, c'est ce que nous faisons par la grâce. Par contre, alors, par la charité, et ça c'est admirable, par la charité, nous pouvons aujourd'hui aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Parce que la différence qu'il y a entre la connaissance et l'amour, c'est que par la connaissance, je ramène l'objet connu à moi, donc je le mets dans ma petite tête, en quelque sorte, vous voyez. Et comme ma tête, elle est bien petite, par rapport aux grandeurs des vérités révélées par Dieu, eh bien, cette connaissance que je vais avoir va être imparfaite, en raison de cela. Mais par l'amour, par contre, je me porte vers l'être aimé tel qu'il est. Donc je peux aujourd'hui aimer Dieu comme il s'aime lui-même. Parce que par l'amour, je me porte vers lui tel qu'il est. Même si je ne peux pas aujourd'hui le voir parfaitement comme il est. Alors pour conclure cette instruction sur la grâce, eh bien, je voudrais vous inviter à essayer de vivre un petit peu plus de cette vie donc de la grâce. Et pour cela, je m'appuierai sur quelques auteurs spirituels qui ont vécu de cette présence trinitaire. Tout d'abord, je vais m'appuyer sur ce que dit le pape Léon XIII, qui résume un petit peu tout ce que j'ai voulu vous dire ce matin sur cette grâce sanctifiante. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Divinum Illud Munus, donc ce don divin, du 9 mai 1897, affirmait « Dieu réside dans l'âme du juste comme en son temple, d'une manière toute spéciale. » Donc Dieu réside dans l'âme du juste comme en son temple, d'une manière toute spéciale. De là vient ce lien de charité qui fait que l'âme est plus étroitement unie à Dieu qu'un ami ne peut l'être à son ami le meilleur et le plus cher, et qu'elle peut jouir de lui en plénitude. Alors cette jouissance de Dieu, maintenant je dirais qu'elle est quand même, elle reste toujours passagère, et elle n'est pas toujours encore entière, dans le sens où précisément parce que Dieu je ne le vois pas, pour jouir de quelqu'un que je ne vois pas, la jouissance aujourd'hui reste imparfaite, vous voyez. Une personne qui est aveugle ne peut pas jouir des biens créés qu'on lui décrit de la même manière que celle qu'elle a vue. C'est évident. Donc nous, dans la mesure où le bon Dieu, on ne le voit pas, on peut très bien, si vous voulez, donc désirer ce monde spirituel qui est vraiment extraordinaire. On peut essayer de vivre déjà de ces réalités par la foi, qui est justement un clair-obscur, mais on ne peut pas en vivre de la même manière que quand on verra le bon Dieu. C'est sûr, quand on verra le bon Dieu, on sera tellement en admiration devant lui que, bon, en ce moment-là, ce sera spontané. Il n'y aura pas besoin de faire de grands discours pour apprendre à aimer le bon Dieu. Ça sera vraiment spontané. Mais c'est vrai que dès à présent, plus nous arriverons à méditer sur ces vérités, donc à nous convaincre de ces vérités, à essayer de, à demander à notre Seigneur de nous éclairer sur le contenu de ces vérités, plus nous serons dans l'admiration devant ce trésor qui est présent en nous. Alors la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui a vécu ici à côté, donc au Carmel de Dijon, disait « Nous portons notre ciel en nous, puisque celui qui rassasie les glorifiés dans la lumière de la vision se donne à nous dans la foi et le mystère. C'est le même. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé pour moi. » Et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. Donc elle dit que le ciel est en nous, puisque celui qui nous fera notre bonheur au ciel est présent déjà maintenant en nous. Seulement, encore une fois, aujourd'hui, on ne peut le percevoir qu'à la lumière de la foi. Et c'est pour ça qu'il faut développer essentiellement en nous, en faire beaucoup d'actes de foi, d'espérance et de charité pour faire croître en nous ces vertus. Vous voyez. Là encore, j'anticipe sur ce qu'on vous dira sur les vertus de foi, d'espérance et de charité. Les fois, les vertus théologales se développent par des actes. Donc en posant des actes, je ferai grandir en moi ces vertus. Et c'est de cette manière-là que je pourrai être davantage encore dans l'admiration devant ce trésor de la grâce présent en moi. Sainte Thérèse d'Avila. N'allons pas nous imaginer que tout notre intérieur est vide. Il y a au-dedans de nous un palais d'une richesse incomparable, digne en un mot du maître à qui il appartient. Et elle ajoute, « Je comprenais fort bien que j'avais une âme, mais de quel prix elle était, quel hôte l'habitait, voilà ce que je ne comprenais pas, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. Je ne comprenais pas comme aujourd'hui que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté. Sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. » Chemin à la perfection, chapitre 30. Donc ici, il y a des remarques donc, de Sainte Thérèse d'Avila. Donc si Sainte Thérèse d'Avila, déjà elle-même, si grande sainte, regrette, si vous voulez, de n'avoir pas vécu suffisamment en présence de Dieu, ben, on ne doit pas être surpris que nous-mêmes, on se dise, ben mince, alors pourquoi est-ce que je ne vis pas suffisamment de cette vérité? Maintenant, elle nous donne un des motifs pour lesquels il nous est difficile de vivre de cette vérité. Elle dit, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. Ça montre que pour être capable de jouir aujourd'hui de Dieu, si vous voulez, il faut que nous enlevions les obstacles qu'il y a entre notre âme et Dieu. On ne peut pas à la fois jouir de Dieu et jouir de ce qui est un obstacle à l'union à Dieu. On ne peut pas à la fois aimer Dieu et le péché. Donc si, malheureusement, je multiplie dans ma vie des péchés véniels délibérés, et peut-être même des péchés mortels, hein, c'est encore pire, mais même des péchés véniels délibérés, eh bien, en ce moment-là, il y a comme un bandeau qui se met sur notre vue de foi, sur la lumière de la foi, et qui nous empêche de vivre vraiment de ces vérités-là. Et donc, c'est un appel pour nous, je pense, toujours à essayer de couper avec toutes nos attaches déréglées pour essayer de vivre un petit peu plus de ce trésor. Mais pour cela, il faut surtout beaucoup de patience et beaucoup de foi et beaucoup d'espérance. C'est comme cela qu'on peut arriver à faire grandir en nous ce trésor présent en nous. Alors, quelques conseils pratiques donnés encore par ces mêmes saintes, Sainte Thérèse d'Avila et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, et puis peut-être pour terminer, Dom Marbion. Nous devons même, au cours de nos occupations, nous retirer en nous-mêmes, ne serait-ce qu'un moment. Il m'est très profitable de me rappeler que j'ai de la compagnie en mon fort intérieur. Chemin à la perfection, chapitre 29. Donc, un conseil donné ici par Sainte Thérèse d'Avila, c'est pas forcément de faire de très très longues prières, vous voyez, qui nous est proposé ici, c'est tout simplement, régulièrement, au cours de nos journées, même au cours de nos occupations, lorsqu'on a l'esprit un petit peu plus libre, lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on va d'un endroit à l'autre, eh bien, de nous retirer, dit-elle, donc dans notre âme, dans notre fort intérieur, pour nous rappeler cette présence de Dieu. Voyez. Sainte Thérèse avait dit que si elle avait su qui habitait dans ce trésor, dans ce trésor de son âme, elle l'aurait pas laissé si souvent seule. Et donc essayons de porter un regard de foi, d'espérance et d'amour sur cette présence de Dieu en nous. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait avant de mourir, « Je vous laisse ma foi en la présence de Dieu. » Du Dieu tout amour habitant en nos âmes. C'est cette intimité avec lui au-dedans de moi qui a été le plus beau soleil irradiant de ma vie. C'est ce qui me soutient aujourd'hui dans ma souffrance. Donc, alors qu'elle souffrait, voyez, alors c'est pas toujours facile quand on souffre de faire de longues prières, eh bien ce qui l'aidait à accepter ses souffrances, c'était ce regard qu'elle portait régulièrement sur le bon Dieu présent en elle. Et pour cela, donc, il faut s'armer de patience. Je cite encore la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes. Donc, elle dit bien toutes les âmes. Donc, elle montre bien que c'est pas réservé uniquement pour les carmélites. Hein. Je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient de vivre dans cette intimité. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas de façon sensible, elle quitte sa sainte présence. Et quand il vient à elle armée de tous ses dons, il ne trouve personne. L'âme est au dehors d'elle-même, dans les choses extérieures, elle n'habite pas au fond d'elle-même. Donc, une des difficultés que nous avons dans ce domaine-là de la vie spirituelle, c'est que, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est pas à nous de fixer l'heure de rendez-vous. Voyez. C'est Dieu qui décide de nous parler quand il veut. Mais c'est à nous d'être branchés, quoi. Si le téléphone n'est pas branché au moment où Dieu nous parle, dommage. On l'entend pas. Voyez. Alors, nous, ce qui se passe, c'est qu'on branche le téléphone de temps en temps, mais comme il répond pas toujours tout de suite, bon, en ce moment-là, on raccroche, quoi. On dit bon, bah, apparemment, en ce moment, il n'a pas l'air d'être très dispo, quoi. Ah, ça sonne. Donc, je pense qu'il faut essayer de brancher un peu plus le téléphone pour pouvoir l'entendre un peu plus souvent. Et donc, dernier conseil, alors, donné par Don Marmion. J'ai essayé de vous montrer, en fait, que ce trésor présent en nous est surtout enraciné dans la grâce baptismale. C'est-à-dire donc cette transformation a été opérée en nous au baptême. Et donc, régulièrement, il est très important de porter ce regard sur cette transformation opérée dans notre âme au baptême. Et on peut dire que Don Marmion a eu cette grâce de bien saisir, je pense, cette transformation qui a été opérée en nous au baptême. On peut dire que chaque saint, vous voyez, a ses lumières propres. Vous voyez. Par exemple, on voit bien que Mgr Lefebvre a eu des lumières particulières sur le Saint-Sacrifice de la Messe. On peut dire que Mgr Lefebvre était vraiment l'homme de la Messe. Il a eu des lumières spéciales, en plus lié à cette période de crise religieuse, pour mieux saisir ce qu'est le Saint-Sacrifice de la Messe avec toutes les applications pratiques, tous les effets de la Messe. Eh bien, Don Marmion, lui, dans son orientation spirituelle, il a surtout eu des lumières spéciales sur la transformation opérée dans notre âme au baptême. Et c'est pourquoi il disait « La gratitude, donc la reconnaissance, et le premier sentiment que doit faire naître en nous la grâce baptismale, la joie est le second. Nous ne devrions jamais penser à notre baptême sans une profonde allégresse intérieure. Au jour du baptême, nous sommes nés en principe à la béatitude éternelle. Nous en tenons même le gage dans cette grâce sanctifiante qui nous a été donnée. Enfin et surtout, nous devons laisser aller notre âme à une grande confiance. » Un effet de la méditation de la grâce, ça doit être la confiance. Lorsqu'il nous voit revêtus de la grâce sanctifiante qui nous fait ressembler à son divin Fils, le Père ne peut que nous accorder ce que nous lui demandons, non pas de nous-mêmes, mais en nous appuyant sur celui en qui il a mis toutes ses complaisances. Donc si j'espère que le bon Dieu m'écoute dans mes prières, ce n'est pas parce que j'estime que en moi-même je suis quelqu'un de bien, mais c'est en raison de cette transformation que notre Seigneur a opérée en moi au jour de mon baptême. Je suis maintenant enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits, même, je peux dire, à ce que le bon Dieu me regarde avec un certain amour. Oui. Et donc tout ce que j'attends de Dieu, je l'attends parce que je suis enfant de Dieu. Donc, pour avoir une vie spirituelle équilibrée, donc pensons que regardons le vieil homme qui est en nous, reconnaissons nos faiblesses, c'est capital, vous voyez, sinon on sera dans l'illusion, mais voyons aussi, et autant même, et peut-être plus, peut-être aujourd'hui encore d'une certaine manière, parce que l'homme a tendance à l'oublier, cette déification de notre âme par le baptême. Et c'est ce qui nous aidera à avoir une vie équilibrée. Parce que c'est évident que ce qui nous entraîne vers le bien, vous voyez, c'est le positif. Oui. Et vous le voyez même par rapport à vos enfants. Oui. Si vous avez tendance uniquement à faire des remarques négatives à vos enfants du matin au soir, eh bien, c'est pesant pour les enfants. Oui. Et donc, il faut essayer, quand bien même il est nécessaire de faire des remarques négatives, et il faut les faire. Jamais on n'arrivera à éduquer un enfant que par du positif. C'est vraiment faire de l'illusion que de se dire on va essayer d'être positivé et ce sera suffisant. Non, c'est évident. Il faut faire des remarques lorsque l'enfant agit mal. Et malheureusement, il y a souvent des dérapages. Mais pour encourager l'enfant, vous voyez, eh bien, il faut essayer de lui faire des remarques positives. C'est le positif qui va l'entraîner, qui va l'encourager. Par exemple, je vois que les dominicaines, pour ça, dans l'éducation des filles, elles sont admirables parce qu'on voit qu'elles ont quand on voit les bulletins des enfants, par exemple, j'ai vu ça une fois ou deux, elles savent toujours, elles mettent le doigt sur ce qui ne va pas, mais ensuite, elles ont toujours le petit mot d'encouragement. Et c'est ça qui aide les enfants, ensuite, à avoir le désir de continuer d'aller de l'avant. Tandis que si on n'est que négatif, alors à ce moment-là, c'est décourageant. Mais... Donc, je pense que c'est important d'avoir ce regard positif sur cette grâce sanctifiante. Donc pour ça, il faut développer ces actes de foi, d'espérance et de charité. Et donc faire preuve de patience, parce que le bon Dieu ne se montre pas toujours comme nous le voudrions. Et puis enfin, c'est encore la conclusion de la conclusion, c'est que toute notre vie morale, vous voyez, doit après découler cette vérité aussi. Il y a des conséquences après pratiques. Vous voyez. Si je suis enfant de Dieu, eh bien noblesse oblige. Vous voyez. Tout mon comportement, vous voyez, extérieur doit découler de ce trésor de Dieu présent en moi. Imaginez, par exemple, quand un prêtre doit porter le Saint-Sacrement quelque part, eh bien, certainement le prêtre cherche à être toujours recueilli, mais lorsqu'il porte le Saint-Sacrement, lorsqu'il va porter le Saint-Sacrement pour communier à un malade ou autre, eh bien, il essaie d'être encore plus recueilli, vous voyez, parce qu'il pense à ce trésor qui est présent en lui. Vous voyez. Eh bien, tout le respect que nous devons à nous-mêmes et aux autres est fondé sur cette réalité. Je suis enfant de Dieu, alors noblesse oblige. Je dois avoir un comportement digne de celui qui habite en moi. Donc toute la moralité, tous les devoirs que nous avons vis-à-vis de notre tenue vestimentaire, vis-à-vis de du comportement, du respect que nous devons à nous-mêmes et aux autres, du bien que nous devons faire, tout cela est fondé sur cette présence trinitaire. Donc c'est très important de réfléchir à cela. Voilà, donc nous rendons à la chapelle pour une petite prière. Après-midi, je voudrais vous dire un mot sur le livre « La messe de toujours ». Et en fait, les séminaristes, l'été, comme vous avez pu constater, donc je leur demande de passer 3 semaines ici au séminaire pour soit des travaux manuels ou aussi pour d'autres travaux qui pourraient être utiles pour le bien de la fraternité. Et donc, je me suis dit, ce serait pas mal, en effet, que les séminaristes puissent écouter, en fait, les œuvres de Mgr Lefebvre pour qu'ils puissent connaître un peu plus le fondateur de la fraternité. Le temps passe de plus en plus vite, hein, et on s'aperçoit qu'on arrive maintenant à la génération des séminaristes qui seront nés, donc c'est pour ceux qui vont rentrer à la rentrée prochaine, hein, donc après les sacres. Vous voyez, le séminariste le plus jeune, qui va rentrer donc au mois d'octobre, est né en 1988, après les sacres. Donc ça veut dire que dans 3 ans, vont rentrer au séminaire les premiers séminaristes qui seront nés après la mort de Mgr Lefebvre. Donc c'est quand même important, bien sûr, pour un séminariste de connaître la pensée du fondateur sur spécialement la messe, puisqu'un prêtre est ordonné pour la messe. Et donc les séminaristes, pendant 4 étés consécutifs, j'ai demandé à 3 ou 4 séminaristes par génération de séminaristes, donc d'écouter donc les conférences de Mgr Lefebvre, comme celles qu'on écoute à midi et à table. Et donc, chaque fois qu'on se le fait parler sur la messe, de taper donc, ce qu'il utilisait. Donc après, ça nous a donné un volume important de textes, et il s'agissait de mettre ces textes en forme. Alors, il y a 2 parties, en fait, dans le livre. La première partie, c'est un commentaire qui va des prières au bas de l'autel au dernier évangile. Un commentaire qui n'est pas forcément littéral, mais qui va vous aider, en fait, à essayer de mieux suivre votre messe. Je pense que c'est d'ailleurs le premier intérêt de ce livre. C'est que beaucoup de fidèles constatent qu'ils ont facilement des distractions en suivant la messe. Alors, je ne dis pas qu'une fois que vous aurez lu ce livre, il n'y aura plus aucune distraction, mais je suis persuadé qu'après l'avoir lu, vous en aurez moins. Enfin, je les souhaite, parce que sinon, c'est pas la peine. Vous en aurez moins parce que c'est lorsque vous sentirez que votre esprit partira, si vous voulez, grâce au texte de Mgr Lefebvre, eh bien, vous aurez la possibilité de revenir au sujet de la messe. Donc, en sachant à quel endroit vous trouvez dans la messe, vous aurez des pensées de Mgr Lefebvre qui vous aideront à vous raccrocher à la messe. Parce que comme vous avez pu constater aussi en lecture de table, Mgr Lefebvre avait cet art, je dirais, de dire des choses très élevées d'une façon très simple. C'est pas forcément donné à tout le monde. Hein. Un jour, un fidèle nous disait, mais pourquoi tous les prêtres ne prêchent pas comme Mgr Lefebvre ? Bon, facile à dire. Hein. Alors, Mgr Lefebvre, il était théologien, il était docteur en théologie, donc il avait une très grande science, hein, au niveau donc de l'esprit. Et puis, en même temps, son travail, ça a été d'être en brousse au départ, hein, donc en Afrique, hein, et donc de prêcher à des gens donc très, très simples. Donc il devait monnayer son savoir auprès de gens très très simples. Parce que s'il parlait d'une façon trop avec des termes trop abstraits, les pauvres petits noirs, ils ont été complètement dépassés, quoi. Donc il fallait essayer de se mettre à leur niveau. Et donc, il a appris à faire cela, et c'est ce qui explique que, de fait, c'est vrai qu'en fin de vie, en plus, après, avec toute l'expérience qu'il avait du ministère, il était capable de dire, en effet, des choses très élevées d'une façon très simple. Et puis ensuite, je constate aussi que parmi nos fidèles, certains donc prennent la résolution, en fin de retraite, et j'espère que plusieurs d'entre vous vont le faire, de méditer quelques minutes par jour. Alors, ce sera d'ailleurs donc je vais pouvoir après parler de ce sujet, puisque c'est mon sujet cet après-midi, c'est sur la méditation. Eh bien, ce livre vous donnera aussi une abondante matière à méditation. Parce que des fidèles qui l'ont lu m'ont dit que c'est un livre qui les aide à prier, qui fait prier. C'est-à-dire qu'on lit Monseigneur Lefebvre, et puis au bout de quelques minutes, eh bien, on a envie de fermer le livre. Alors, c'est ce que me dit un fidèle, ah bon ? Sopo ? Non, c'est pas du tout. En ce moment-là, j'ai envie de fermer le livre parce que justement, je me sens plus près du bon Dieu et j'ai envie de parler à Dieu. Puis, bah, voilà, vous avez tout compris ce que c'est que la méditation. Donc, c'est un livre qui fait prier, donc ça, c'est le deuxième intérêt. Après, la deuxième partie du livre, c'est une étude critique de la nouvelle messe. Et donc, cette deuxième partie, à mon avis, est surtout utile pour les plus jeunes parmi vous. À savoir que, bon, vos parents ou vos grands-parents ont fait le choix de la messe, bon, c'est très bien. Mais vous-même, eh bien, vous avez donc bénéficié de cette messe depuis votre berceau. Mais ensuite, après, pourquoi assister à cette messe? Pourquoi faire tant de kilomètres pour aller à la messe? Pourquoi ne pas assister à la messe dans son village ou dans sa ville? Pourquoi ne pas aller à la messe dans sa paroisse? C'est important d'avoir des arguments. Et donc là aussi, en prenant tous les arguments que Mgr Lefebvre a donné en 20 ans, si vous voulez, ça donne une force, si vous voulez, qui va, je pense, de conviction, qui pourra aussi vous aider. Et puis enfin, le dernier intérêt de ce livre, c'est que, à mon avis, il peut assez facilement être prêté à des personnes qui n'ont pas nos idées. Par exemple, je l'ai prêté, alors c'est sûr, comme j'avais fait le livre en deux parties, en commençant d'abord par la première sur la messe traditionnelle, et que j'avais bien sûr les textes donc devant moi, le livre n'était pas encore terminé, je l'ai passé à un prêtre. J'ai passé d'abord la première partie, sans lui dire qu'il y avait deux parties. Hein. Donc j'ai passé la première partie, et puis je lui ai dit, bon voilà, est-ce que vous pourriez me donner votre avis? Et donc, il avait trouvé très bien. Bon, très bien, alors après, je l'ai passé à la deuxième. Gloups. Ben oui. Alors bon, il n'a pas été, il n'a pas trouvé d'argument. Il m'a pas dit, si vous voulez, ben non, Mgr Lefebvre est excessif, il exagère, c'est pas du tout ça, c'est pas non. Il a simplement dit, oui, c'est vrai qu'en 1970, dans le contexte de l'Église, on comprend qu'il y a eu cette réaction, mais aujourd'hui, c'est différent. Bon. Donc, il a cherché à relativiser, si vous voulez, la pensée de Mgr Lefebvre en essayant de la circonscrire à un contexte historique, en pensant qu'aujourd'hui, ce serait totalement différent. Mais aujourd'hui, je suis désolé, quand on assiste à la messe au village de Flavigny, enfin, n'y allez pas, hein, mais c'est à peu près la même chose qu'il y a 30 ans, hein, 35 ans. On voit bien que c'est encore la table qui est présente au milieu du... Et puis, ainsi de suite, vous voyez. Donc, ce livre aussi pourra, je pense, peut facilement être passé à des gens qui n'ont pas nos idées. Parce qu'il présente la vérité avant de présenter l'erreur. Donc, le catholique, c'est quelqu'un qui est pour la vérité et qui est contre l'erreur. Mais on est d'abord pour la vérité. Alors, dans la mesure où Mgr Lefebvre présente d'abord la vérité, eh bien, je pense que cela peut aider des personnes qui n'ont pas nos idées à mieux, au moins, nous connaître. Alors, bien sûr, si vous passez ce livre en disant « Si tu veux comprendre la messe et donc comprendre pourquoi la nouvelle messe, elle est vraiment nulle, hein, mais lis ça. » C'est sûr que ça ne pas forcément le résultat attendu. Mais si vous lui dites « Si tu veux comprendre mon mode de pensée et savoir pourquoi j'ai fait ce choix, lis ça et après on discutera. » Bon, je pense que ça pourra vous donner des arguments. Donc voilà. Entre autres, donc j'étais à Paris en fin novembre pour dédicacer le livre et à France Livre. Et donc, parmi les personnes qui sont passées, il y avait un homme d'une trentaine d'années qui est passé, il était en anorak, et puis qui me dit, voilà, je suis prêtre. Alors, en ce moment-là, il a ouvert son anorak, et en effet, il y avait le col en dessous, le col romain. Il m'a dit qu'il était prêtre depuis un an, et il m'a dit, j'ai acheté ce livre parce que j'aimerais bien quand même apprendre à dire la messe traditionnelle. J'ai dit, bon, très bien. Et donc, j'espère que, en lisant le livre, ça a pu l'aider à faire le bien. Donc ce livre qui normalement est en vente à 25 €, je vous le fais à 18 € pendant la retraite, donc profitez-en. Dédicacé avant la fin de la retraite. Après la fin de la retraite, ce sera trop tard. Donc, le flash de pub est terminé. Donc maintenant, je vais vous parler de la piété et de l'oraison. Alors tout d'abord, une réflexion là-dessus. Quelle doit être votre piété ? Alors, vous avez le désir d'être une femme pieuse, bon. Alors, quelle doit être votre piété? Eh bien, quand on parle de piété, on pense facilement à la récitation de certaines prières. On dit des âmes pieuses, c'est des âmes qui prient beaucoup. Plus elles font de longues prières, plus elles sont pieuses. En réalité, le fait d'avoir certaines habitudes de prière, donc de faire des prières très régulières, c'est bien sûr très bien. Et ce sont d'ailleurs des conditions de la piété, et souvent des manifestations de la piété. Mais ces habitudes ne constituent pas la piété. À telle enseigne que certaines personnes peuvent très bien rabâcher des formules donc en étant totalement absentes, en ayant l'esprit totalement ailleurs, si bien que cela ne les rend pas meilleurs. De même, l'appartenance à un tiers ordre, par exemple, ou l'intronisation dans son foyer du Sacré-Cœur, ou encore le port de la médaille miraculeuse, peuvent alimenter votre piété, mais elles ne sont pas non plus votre piété. On peut très bien faire partie d'un tiers ordre, ou porter une médaille, et rester malheureusement une âme superficielle. Alors vous allez me dire peut-être, mais moi ma piété en fait me procure une grande joie. Elle me rend le bon Dieu proche de moi, alors est-ce que c'est cela la piété? Eh bien c'est vrai que ces émotions que vous pouvez ressentir dans la prière peuvent être un des effets de la piété. Mais ce n'est pas encore cela la piété. La piété peut exister avec elle, mais la piété peut exister sans elle. Une âme pieuse peut très bien à un certain moment dans sa vie spirituelle être dans la plus grande sécheresse, dont le bon Dieu lui paraît très loin, et cette âme peut être très pieuse. Donc qu'est-ce que c'est que la piété? Eh bien la piété, c'est une disposition de l'âme, une disposition intime de l'âme, on peut dire, une orientation profonde de l'âme qui unit à Dieu toutes nos facultés et nous fait agir sous son influence. C'est une orientation profonde de l'âme qui unit à Dieu notre âme et même toutes nos facultés et nous fait agir sous son influence. Donc la vraie piété a pour origine le fond de notre âme. Là où se trouve notre volonté et non pas la surface de l'âme où se manifeste notre sensibilité. Donc Saint François de Sales dit la même chose en parlant de la partie supérieure de l'âme, qu'il appelle donc l'intelligence et la volonté, et la partie inférieure de l'âme, qu'il appelle la sensibilité. Donc puisque la piété a pour origine la partie supérieure de l'âme, il peut arriver qu'elle se prolonge dans la partie inférieure, donc dans la sensibilité, d'où la ferveur sensible qu'on peut avoir à certains moments. Par exemple, une personne, pour la première fois, hésite à la retraite, alors pendant les complis le soir, elle se sent bien, le Salve Regina, ça leur fait beaucoup de bien. Bon, c'est un exemple, vous voyez. Donc c'est là, tout simplement, que la partie spirituelle de l'âme se prolonge, en ce moment-là, a des effets sur la partie sensible. Mais il peut très bien arriver, et il arrive même régulièrement, et c'est fait même partie des règles de la vie spirituelle, hein, que à certains moments, notre âme peut être très bien unie à Dieu, et malgré cela, eh bien, la partie inférieure de notre âme lui fait la guerre. Et c'est ce qui explique que même parfois, alors qu'on est en prière, on veut être uni au bon Dieu, il y a des vilaines images qui nous traversent dans l'esprit. Même parfois à la messe, même parfois juste avant de communier. Alors saint François de Sales dit à ce sujet-là que tant qu'on les chasse comme des mouches importunes, elles ne sont pas un réel obstacle à notre piété. Vous avez des mouches, parfois, ou des moustiques dehors, là. Donc, chaque fois que vous les chassez, bon, c'est sûr que ça montre bien que vous n'y adhérez pas. Vous voyez, au contraire, c'est quelque chose qui vous agace. Donc, tant que ça vous agace et que vous cherchez à le chasser, il n'y a aucun problème, vous êtes dans le droit chemin. Et donc, Saint-François de Sales disait ceci. Je désire grandement que l'on distingue toujours les effets de la partie supérieure de notre âme d'avec les effets de la partie inférieure. Et que nous ne nous étonnions jamais des productions de l'inférieur, pour mauvaises qu'elles puissent être, pourvu que nous nous tenions fermes en la partie supérieure pour aller toujours avant en la voie de la perfection. Et donc Sainte Jeanne de Chantal, qui était un jour justement aux prises à ces tentations, eh bien Saint François de Sales lui écrivait « Courage, pendant que nous pouvons dire avec résolution, quoique sans sentiment, vive Jésus, il ne faut point craindre. » Et ne me dites pas qu'il vous semble que vous le dites avec lâcheté, sans force ni courage, mais comme par une violence que vous vous faites. Ô Dieu, mais donc voilà la sainte violence qui ravit les cieux. C'est cette volonté libre, laquelle, toute nue devant Dieu, réside dans la suprême et plus spirituelle partie de l'âme, ne dépend d'autre que de son Dieu et de soi-même. Et quand toutes les autres facultés de l'âme sont perdues et assujetties à l'ennemi, demeure maîtresse de soi-même pour ne point consentir. Donc en un mot, si vous voulez, ce que dit ici Saint-François de Sales, c'est qu'il faut toujours se dire que la vertu est dans la volonté et le péché est dans la volonté. Voyez. Donc dans la mesure, vouloir aimer, c'est aimer. Est-ce que vous voulez aimer le bon Dieu? C'est que vous l'aimez. Voyez. Vouloir aimer, c'est aimer. Et au contraire, dans la mesure où vous ne voulez pas le mal, eh bien en ce moment-là, il n'y a pas à vous inquiéter. Par contre, dès lors que vous consentez au mal, alors c'est là que vous voulez en ce moment-là le mal. Voyez. Et en ce moment-là, c'est là que vous tombez. Mais tant que vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Donc, faut pas confondre sensibilité avec sentir n'est pas consentir. Le mal est dans le consentement au mal. Mais le fait de ressentir de mal n'est pas le péché. Le péché n'est pas dans ce qu'on ressent, mais dans le fait qu'on acquiesce à ce qu'on ressent. Si on adhère à quelque chose de mauvais, alors là, oui, on fait le mal. Mais si on ne consent pas, il n'y a pas de mal. Et le démon, justement, sa spécialité, c'est le cinéma. Donc il peut très bien, lui, nous faire produire, si vous voulez, sous nos yeux, des tas d'images, ou bonnes ou mauvaises, pour nous faire nous dévier de notre devoir. Mais tant qu'on ne l'écoute pas, il n'y a pas de faute. Oui.